C'est quand la dernière fois que vous avez entendu de la musique populaire en allumant votre radio? C'est quand Michael Jackson était encore noir? The Cure?
J'essaie d'écouter les infos. J'aimerais bien savoir si ta joyeuse bande de copains de Camden fait la une.
Vous écoutez les infos?
T'as un problème avec les infos aussi?
Ah ouais, moi j'ai un méchant problème avec les infos. Écoutez bien, l'information est totalement manipulée.
Canu Info.
Radio Canu, 102.2.
Bonjour.
Ah, bonsoir.
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 C'est l'heure du Canu Info.
Les Canu Info.
Canu Info.
Du mercredi.
Vous avez bien parfaitement réglé votre radio puisque vous êtes sur le 102.2 sur Radio Canu et qu'il est l'heure du Canu Info. Avec ce soir l'interview d'un prof de collège en grève. Et puis des histoires de répression, de répression, de répression, de répression dans la pratique, de gens qui se mangent des beignes par les flics et de répression juridique, c'est-à-dire de lois qu'on nous prépare pour faire en sorte que vraiment, vraiment, cette fois-ci, on ne bouge plus jamais un cil. La loi sur la sécurité globale dont on a déjà beaucoup entendu parler, mais vous allez voir une nouvelle loi sur les occupations de fac qui n'est pas piquée des verres. Après, Jean Castex, notre Premier ministre, était samedi dernier à Saint-Étienne en visite au CHU de Saint-Étienne, à l'hôpital, et il n'était pas seul puisqu'il y avait un certain nombre de flics, un certain nombre d'infirmières qui venaient aussi en partie l'accueillir, en partie essayer de travailler, mais ça n'a pas été facile. Et puis il y avait aussi un camarade à nous avec un micro, vous aurez le résultat de tout ça. Le syndicat Avenir Lycéen, qui est le syndicat lycéen macroniste, eh bien ce syndicat se gave au sens propre, figurez-vous, avec l'argent du ministère. Après, ma foi, il y aura notre rubrique « Il faut que ça se sache ». Pour déjouer les populismes, l'Union européenne et Emmanuel Macron pointent du doigt l'immigration et l'espace Schengen. Bien sûr, toujours la bonne recette. 50 migrants attaquent Malte, alors non pas à bord d'un bateau pirate, mais attaquent Malte juridiquement pour violation de leurs droits. Et puis, encore une fois, une grève de la faim au centre de rétention de Lyon-Saint-Exupéry. Et enfin, à Calais, subvention orientée et contestation des expulsions.
Canu Info. Du mercredi.
Ben dis donc, c'est le 11 novembre aujourd'hui, alors là, aucun doute. Alors déjà que ça fait quelques jours qu'on nous chauffe les oreilles avec l'anniversaire de la mort de De Gaulle, gna gna, mon général, blabla. Depuis hier, c'est aussi la panthéonisation de Maurice Genevoix, alors qui tourne en boucle, hein. Grosse, grosse thématique aujourd'hui. Alors, Maurice Genevoix, vous voyez, c'est une sorte d'écrivain... qui a fait la guerre de 14 et qui en a tiré un livre qui s'appelle Ceux de 14. C'est en particulier pour ça, semble-t-il, qu'il entre aujourd'hui au Panthéon. Bon, moi, j'ai pas particulièrement d'avis sur lui. Je crois que j'ai lu un bouquin de lui il y a quelques dizaines d'années, mais c'est tout. Mais alors, ce foin qu'on fait autour de lui, autour de Ceux de 14, en le mettant au Panthéon, c'est un peu tous les soldats de la Première Guerre mondiale qui sont mis à l'honneur, tout ça, tout ça, tout ça. Et si il y a quelques années, on n'aurait pas trop évoqué la guerre de 14, en tout cas aussi longuement, sans souligner à un moment ou à un autre à quel point cette guerre avait été une boucherie absurde, un nombre incroyable de gens tués, morts surtout pour la défense du grand capital en général et de leur capital national en particulier, morts pour des intérêts auxquels l'écrasante majorité était très loin d'avoir accès. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait la même ambiance. La guerre, le Panthéon, le son du clairon au petit matin, salut au drapeau, le doigt sur la couture du pantalon et l'autre main au képi. Tout le pays en guerre de toute façon, alors contre le virus, contre le terrorisme. ait bien rappelé à la nécessité de l'union nationale. Et l'union nationale, ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut toujours dire que le véritable ennemi, on est sommé de le chercher ailleurs. Que nos petits soucis avec nos gouvernants, avec nos riches et nos très très riches, avec nos patrons, avec nos flics, que tout ça c'est dérisoire. Notre première solidarité doit être nationale, doit être entre Français contre le virus s'il y a lieu, et à la première occasion aussi contre les étrangers, tous plus ou moins barbares. Même d'ailleurs, celles et ceux qui ont une carte d'identité française, mais pour peu que les gens pratiquent une religion évidemment antinationale, ça leur crée quand même une sorte de statut des semi-étrangers. Et on va le voir dans ce Canu Info, cette petite ambiance début du XXe siècle va avec une sérieuse tendance nationale à l'autoritarisme politique. C'est certainement tout sauf un hasard.
Radio Canu 102.2
Rebelle des radios.
Canu Info.
On revient maintenant sur la grève des enseignants et personnels des établissements scolaires qui s'est tenue hier le 10 novembre pour protester contre les mesures sanitaires insuffisantes dans leurs établissements.
Je suis enseignant en sciences physiques au collège professeur d'argent qui se trouve à la limite entre le 3e et le 8e arrondissement, donc à Lyon.
Donc qu'est-ce qu'on vous a proposé à la rentrée de la Toussaint, à la rentrée des vacances de la Toussaint, comme plan sanitaire dans votre collège?
Disons que, en fait, on ne pouvait pas nous proposer grand-chose parce que, pour résumer la situation, c'est ce qu'un collègue disait. Voilà, on est dans une situation exceptionnelle avec l'épidémie et on n'a aucun moyen exceptionnel. Et sans moyen exceptionnel, c'est-à-dire sans possibilité de diviser les classes par exemple, ou même sans agents supplémentaires pour le nettoyage, en fait on bricole. Hein, et disons que une des mesures qui a été prise, ça a été de faire en sorte que les différentes classes ne rentrent pas par la même porte. Ça s'est résumé pratiquement à ça. En fait, le gros problème qu'on a, ça c'est un problème qu'on a depuis des années, c'est qu'on a des classes qui sont de plus en plus chargées. On est à 30 élèves maintenant par classe, dans le collège, avec en plus des élèves handicapés. Bon, voilà, les élèves, ils sont entassés, ils se bousculent dans les couloirs, ils se bousculent à la cantine. Donc, parler d'un protocole sanitaire là-dedans... Là, ça peut être que du bricolage et c'est assez illusoire en fait.
En réaction à ça, ben, y a eu des fortes mobilisations à la rentrée, des blocages de lycées qui ont été d'ailleurs assez fortement réprimés, une grève qui a suivi hier le 10 novembre. Et comment elle a été suivie cette grève dans ton collège où tu dis ben, du coup c'était des bouts de chandelle pour essayer de mettre en place des choses? Comment vous avez suivi cette grève là du coup?
Alors nous on a été un certain nombre effectivement à se saisir de cette journée pour manifester notre colère, en fait. Alors, on était, je ne sais pas exactement encore, mais plus d'une dizaine à être en grève. Et en plus, il y avait des surveillants en grève et il y avait aussi des agents qui s'occupent des élèves handicapés, les accompagnants. Bon, alors exactement combien? Entre 10 et 15 personnes, on va dire. Mais en fait, cette colère, elle est présente depuis la rentrée, justement. Je crois me souvenir que le ministre Blanquer, il expliquait que voilà, la rentrée, c'est une rentrée normale. Et pour nous, des rentrées normales, ça fait des années qu'on n'en a plus, en fait. À cause, justement, de ce problème-là, que même en temps ordinaire, les élèves, ils sont trop nombreux, enfin, les classes sont surchargées. Là, en plus, il y a cet aspect sanitaire lié à l'épidémie. Ben, ça révèle l'impossibilité de faire face, en fait. Mm-hmm. L'impossibilité d'assurer les mesures barrières. Et puis demander à des collégiens de porter le masque de 8h du matin, parfois jusqu'à 16 ou 17h, en classe, dans les couloirs, dans la cour d'école, ben, c'est vraiment demander des efforts, que la plupart font en plus, hein. Mais les efforts, ce qu'on tenait en tout cas à condamner, c'est le fait que le gouvernement, lui, il ne le faisait pas.
C'est-à-dire en mettant pas en place de plan sanitaire digne de ce nom, justement.
Mais c'est pas que le problème du plan sanitaire. C'est depuis mars. En mars, il y a eu le bel confinement. Effectivement, la plupart des élèves ne sont pas venus pendant plusieurs semaines. La conséquence a été néfaste. Les élèves qui ont décroché, en fait. Et donc, on aurait pu anticiper la deuxième vague. Se donner les moyens, justement, d'avoir plus de monde, plus d'enseignants, plus d'adultes, en tout cas, pour encadrer les élèves par demi-groupe. C'est l'idée qui est développée en ce moment. D'avoir plus d'agents pour l'entretien, le nettoyage et la désinfection des locaux. Parce que là, ils ne sont pas plus nombreux. Les collègues qui font un nettoyage sont en train de courir. Plus de personnes pour aider les élèves handicapés. Voilà, mais en 6 mois, je crois que c'est comme dans les hôpitaux, il n'y a rien de plus. On se retrouve avec les mêmes classes surchargées, avec le même manque de personnel. Nous, on essaye, effectivement, on nous dit, débrouillez-vous, essayez de trouver une solution. Nous, on pense que on va peut-être en proposer une, parce qu'on n'a pas le choix, mais voilà, le fond du problème, il est là. Il manque du personnel. Encore une fois, c'est comme dans les hôpitaux, je crois.
Les lycées, par exemple, sont autorisés à accueillir à temps partiel 50% des élèves. Est-ce que vous, c'est ça aussi que vous voulez, ou vous préférez une autre solution?
C'est vrai qu'on va peut-être en être réduit à faire ça, mais nous, ce qu'on voudrait, c'est effectivement pouvoir passer en demi-groupe, pouvoir couper les classes en deux, mais continuer à accueillir tout le monde. Et ça voudrait dire qu'il y ait des moyens humains supplémentaires pour accueillir tous les élèves. Et nous, on est un certain nombre à penser, en tout cas, que dans une situation où il y a autant de gens qui cherchent du travail, autant de jeunes, des jeunes étudiants ou des diplômés qui n'ont pas forcément de travail, là, ils seraient les bienvenus pour prendre en charge de demi-groupes supplémentaires. Et nous, on les aiderait. Et puis même si on manque de locaux dans des collèges, moi je pense que dans des agglomérations comme Lyon, des locaux publics qu'on pourrait prendre et réquisitionner pour ça, je pense qu'il faudrait un vrai plan d'urgence de ce point de vue-là. Alors comme on l'a pas, effectivement, on en est réduit à des mesures qui sont des pis-allers. De demander à des élèves de ne venir qu'un jour sur deux ou une semaine sur deux. Ça, nous, on va en discuter entre nous pour faire une proposition. Mais on sait très bien que ça va avoir des répercussions.
Du coup, là, même si c'était du temps partiel, enfin, de présence partielle des élèves, ça poserait les mêmes problèmes qu'un confinement total en mars, quoi.
Disons qu'une partie des élèves seraient mis en difficulté. Ils le sont en temps ordinaire. Et le fait qu'on soit à 30 par classe, de toute façon, ça ne permet pas de résoudre toutes les difficultés. Alors à distance, les difficultés seraient là. Le fait de prendre en demi-groupe, ça limiterait un peu la casse, parce qu'on les verrait quand même plus fréquemment, et en demi-groupe, on peut avancer un peu plus vite. Enfin, on est conscient qu'une partie des élèves, de toute façon, on va à nouveau les perdre. C'est pour ça que moi j'insiste sur le fait qu'il faudrait un vrai plan d'urgence. Le gouvernement, il a trouvé 100 milliards au moins pour aider les entreprises. Et je crois qu'il vient d'en trouver 20 milliards en plus, là. Et en plus, les grandes entreprises, si j'ai bien compris. Moi, j'ai fait le calcul, avec ces 100 milliards, on peut créer 2,7 millions de postes dans la fonction publique, dans les hôpitaux, les écoles, partout où c'est utile. 2,7 millions de postes, payer 1800 euros net, charges comprises. Donc ça, oui, c'était correspond à faire face aux besoins. Et voilà, on en est... rien, on se débrouille comme on peut. Et quand le gouvernement ou Blanquer annonce un plan, c'est à chaque fois, ça veut dire débrouillez-vous. C'est à nous à trouver des solutions en local et sans qu'on ait des moyens en plus.
Et alors, comment vous envisagez du coup la suite de la grève, la suite de la mobilisation et l'organisation par vous-même?
Alors, nous là, on va se réunir à nouveau et puis, ce qu'on a fait pour l'instant, on a une sorte de pétition qu'on va transmettre à l'inspection académique où on réclame justement le droit de réorganiser les emplois du temps. Mais je pense que ce qu'on a prévu, c'est de se réunir pour faire une proposition qui nous semble acceptable ou qu'on puisse assumer à l'échelle de notre collège, quoi.
Canu Info.
Je sais pas si vous avez vu, mais les lycéennes et les lycéens s'en prennent un peu plein la gueule ces derniers jours. Peut-être que vous en avez entendu parler. Bah, dans ce cas, c'est plutôt si vous êtes un peu branché sur les médias militants, les rébellions, Paris Lutte, Mars Info, la Rotative, Nantes Révoltée, et toutes ces, et tous ces sites un peu, on pourrait dire, partenaires de nos Canuts Info. Mais si vous prenez vos infos aux sources classiques, ma foi, c'est vrai que des gamines qui se prennent des balles de LBD dans la gueule, ça fait longtemps que c'est plus un événement. Alors que par contre, c'est vrai que c'est pas tous les jours que mon général est mort depuis 50 ans ou que Maurice Genevoix est panthéonisé. Ici et là, à Saint-Nazaire, à Nantes, à Lyon, à Compiègne, des lycéens, des lycéennes ont tenté de bloquer leur lycée. Alors c'est pour protester contre le caractère un peu dérisoire des mesures sanitaires censées leur permettre de continuer leur scolarité sans forcément choper le virus. Je vais pas faire ici le détail des mesures, des mesurettes, des instructions données aux chefs d'établissement, généralement plus rigolotes que applicables ou plus dérisoires que efficaces. Alors je vais pas faire ce détail parce que franchement ça me fatigue, c'est la même chose partout. Le résumé c'est ne vous amusez surtout pas, gelez-vous en classe avec les fenêtres ouvertes, rentrez directement chez vous, mais surtout, 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 continuez à aller au bahut, bon, à l'usine, au bureau, etc., etc. Et au bahut, c'est dans les classes surpeuplées, dans les cantines surpeuplées, blablabla, enfin, on sait tout ça. Dans les lycées, ça les a saoulés. Et donc, grève et blocage, et donc, flics. Alors, on trouve très facilement, en tout cas si on cherche un peu, des images de matraquage, de gazage, de tir de flashball. Mais, comme je le disais, ça a plus grand-chose d'étonnant, c'est plus très sensationnel. Bon, si malgré tout, vous voulez trouver un exemple de vidéo, par exemple, particulièrement dégueu, sur Nantes Révoltée, vous pouvez trouver cet article qui s'appelle « Saint-Nazaire, agression en bande organisée », où on voit un lycéen, seul, les bras levés en signe de « ouh, je vais pas faire de mal », au milieu de la route, un flic qui s'approche de lui tranquillement, le lycéen bouge pas, quand le flic arrive à portée de main, bim, d'un coup il lui met une énorme beigne, il le balance au sol, et là, les 20 flics qui sont à quelques dizaines de mètres se mettent tous à courir en hurlant sur lui, et ils le lattent par terre. Si vous préférez du plus local, vous pouvez aller sur le site Rébellion et lire le témoignage des lycéennes et lycéens de Saint-Exupéry qui parlent, alors ma foi, d'élèves qui, après leur interpellation, sont giflés, la tête frappée contre les murs, j'en passe, et des meilleurs. Vous pouvez lire l'article, c'est bien plus détaillé. De toute façon, on est en 2020, tout ça ne choque plus beaucoup. Alors, une autre histoire maintenant, en Martinique cette fois. Il s'appelle Kezia, il a 21 ans et il a été gravement blessé par des gendarmes le 16 juillet dernier à Fort-de-France, en Martinique donc. Blessure au crâne, à l'œil, corps tuméfié, le jeune homme a écopé de 21 jours d'ITT après avoir été roué de coups. C'est quand même lui qui comparaîtra devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France pour des faits de, ouvrez les guillemets, violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Parce qu'il a cherché à protéger sa mère pendant une charge des gendarmes. Alors, tout ça se passait pendant une manifestation contre le chlordécone. Le chlordécone, vous voyez, c'est ce pesticide méga dangereux qui a été utilisé massivement dans la culture de bananes en Guadeloupe et en Martinique et qui a continué à être utilisé en Guadeloupe et en Martinique pendant des années et des années après avoir été interdit sur tout le reste de la planète, y compris, bien sûr, en France métropolitaine. Ce produit a intoxiqué des générations d'Antillaises et d'Antillais. Depuis novembre 2019, chaque samedi, des militantes et des militants bloquent les accès aux supermarchés qui appartiennent aux planteurs, les grandes familles de béquets, descendants de colons, des esclavagistes, etc., etc., qui sont considérés comme responsables de cet empoisonnement des terres. Et souvent, pendant ces manifs, la répression arrive et bim, prends ça dans ta gueule. Et là, ce Kezia Nuissier, lui, il était, au moment des faits, il était étudiant à l'université de Fort-de-France, troisième année de licence d'anglais. Il travaillait à mi-temps dans une école primaire, dans un collège. Globalement, ça a l'air d'être plutôt quand même vraiment un brave garçon. Le jour de la manif, un gendarme cogne sa mère. Bon, sa mère qui, elle, a l'air aussi un peu fight, un peu. Là, Kezia, il se faufile entre des gardes mobiles, alors les bras levés pour la protéger. Un gendarme auprès de qui il se faufile se casse la gueule, poussé dans la cohue, tout ça, et affirme du coup qu'il a été frappé. Il porte plainte le soir même pour 3 violents coups de poing portés au visage, ce qui est alors formellement et évidemment démenti par les vidéos du truc. Les gendarmes du coup se jettent tous sur Kezia, le défonce à coups de matraque, et là, ça vole, pareil, ça a été filmé, t'es un enculé, c'est tout, t'es un fils de pute, regarde-moi bien, regarde mon visage, meurs, il y en a un qui lui dit. Kezia a aussi entendu « sale négro » ou encore « t'iras plus jamais en manif ». Et donc, qu'est-ce qui devait passer en procès avant-hier? Les flics? Eh non, bien sûr que non, c'est bien Kezia. Le procès a finalement été reporté en mars. Si vous voulez plus de détails sur cette histoire, vous les trouverez dans un article du site d'info en ligne Reporter. Tout ça, c'est la manière de fonctionner quotidienne de la police. On rappelle qu'elle est largement couverte par le pouvoir, par les pouvoirs, et plus particulièrement par ce gouvernement. On rappelle que le ministre de l'Intérieur précédent, Christophe Castaner, avait passé 2 ans à répéter en boucle qu'il n'y a pas de violence policière, il n'y a pas de violence policière, il n'y a pas de violence policière, pas non plus de racisme dans la police, à le dire quand il était invité, à le dire quand on lui parlait, à le dire quand il dormait, à le dire quand on lui montrait des vidéos sans aucune équivoque, à le dire quand on lui faisait entendre des témoignages précis, des témoignages innombrables. Bon, un jour, à force, à propos de je ne me rappelle plus lequel de ces articles de presse, il a quand même vaguement lâché qu'il pouvait arriver, peut-être parfois exceptionnellement, qu'un flic ait une attitude raciste, et il a même dit que c'était mal et que dans ce cas, il fallait peut-être penser à une possibilité de suspendre cet agent. Dis donc. Alors là, ça a immédiatement, tous les flics et les gendarmes se sont immédiatement mobilisés, et un mois après, Castaner était dégagé au profit de Gérald Darmanin, qui ne va certainement pas commettre la même erreur. Alors, l'exécutif cherche maintenant à blinder l'aspect législatif de la répression, parce que ça, là donc, ce qu'on vient de voir, c'est la pratique de la répression. Mais après, il y a, comme qui dirait, la théorie, c'est-à-dire les lois. Alors, tout le monde parle beaucoup de ce projet sur la sécurité globale, qui organise le filmage par drone des manifs et des choses comme ça, mais surtout son article 24 qui interdirait, alors soyons précis, parce que du coup c'est souvent dit de manière un peu trop résumée, mais qui interdirait non pas de filmer les flics, mais bien de diffuser une image de leur visage ou de tout autre élément qui permettrait de les identifier dans le but qu'ils soient portés atteinte à son intégrité physique ou psychique. Alors cette espèce de précision est là pour nous rassurer, mais que ça soit les professionnels de l'info, c'est-à-dire les syndicats de journalistes, ou que ça soit les professionnels du droit, c'est-à-dire le syndicat de la magistrature, eux, tous les uns et les autres, ils nous disent qu'ils sont persuadés que cette loi empêchera tout simplement de documenter les violences policières, un point final et une bonne fois pour toutes. Bon, là-dessus, j'imagine qu'on peut leur faire confiance, ils savent de quoi ils parlent les uns et les autres. Cette loi, ça fait plusieurs semaines qu'on en parle. Mais alors, depuis hier, on entend parler d'une autre surprise, et on n'en entend bizarrement pas largement parler. Il s'agit d'un petit article glissé dans le dernier projet de loi de la programmation de la recherche. Alors, globalement, cette loi de la programmation de la recherche, c'est une loi qui est destinée, comme on s'en doute, comme on le comprend, et il y en a régulièrement qui s'appellent comme ça et qui vont un peu toujours dans le même sens depuis les dernières années. Ça sert à privatiser, à précariser, à libéraliser toujours plus les universités. Même si, disons-le en passant, le monde de la recherche en entier explique que si on ne savait à peu près rien du coronavirus il y a encore 8 mois de ça, c'est bien en grande partie à cause de la recherche de rentabilité immédiate à laquelle est soumise la recherche en France et dans le monde. Cette exigence de rentabilité immédiate, ça fait qu'on fait pas de ce qu'on appelle de recherche fondamentale, c'est-à-dire les recherches qui vont pas servir directement à quelque chose, mais qui font un socle de connaissances sur lequel on peut s'appuyer si à un moment on a un truc vers lequel on doit aller, comme par exemple le coronavirus Covid-19. Ben là, pour le coup, on n'en savait rien parce que toutes les recherches avaient été abandonnées vu que ça rapportait que dalle. Bon, là, on a une loi qui va faire que on va avoir toujours un petit peu plus cette exigence de rentabilité. Ma foi, ce gouvernement prend cette crise du Covid-19 et en tire toujours les conclusions exactement inverses de ce qui semblerait malin. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. Mais alors, surtout, au milieu de cette loi, il y a un petit trésor, une fève glissée au dernier moment. Une disposition ajoutée en urgence par la commission mixte, c'est-à-dire une sorte de commission de machin où des députés et des sénateurs bossent ensemble, c'est pour ça que c'est mixte. Et donc, cette disposition crée un délit d'entrave. Alors, ouvrez les guillemets, c'est comme ça que c'est formulé pour l'instant. Bon, je rappelle que c'est un projet de loi, il n'est pas encore adopté, mais il a l'air d'être potentiellement adopté assez rapidement, celui-là. Donc, ouvrez les guillemets. Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement supérieur sans y être habilité ou y avoir été autorisé, dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l'établissement, alors tout ça sera puni. Alors attendez, donc voilà, c'est y aura sans doute pas mal d'applications à ce machin, mais l'application qui saute aux yeux, c'est que si la loi passe comme telle avec cette petite phrase, tout étudiant ou prof ou enseignant-chercheur, étudiant-enseignant, je ne sais quoi là, tous ces machins qu'ils ont dans les facs, n'importe qui cherchera à faire grève dans l'enceinte du campus, ou pire encore, à occuper, ou encore pire, à bloquer, chacune de ces personnes sera passible de, et là c'est le moment d'être attentif, de 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Si tu bloques ta fac, 3 ans de prison, 45 000 euros d'amende. Alors, jusqu'à il y a quelques années, et depuis le Moyen-Âge, les flics n'avaient juste pas le droit d'entrer sur les campus, sauf vraiment appelés par le président de la fac, et ça arrivait pour ainsi dire jamais. Ça avait déjà été pas mal mis à mal par Hollande et Valls, puis par Macron, qui ont pris l'habitude d'envoyer leurs flics dans les facs pour un oui, pour un non, en prenant à peine le temps de téléphoner un petit coup au président pour lui demander son avis, mais alors vite fait. Mais là, c'est encore bien, bien pire. Plus aucun mouvement étudiant ne sera possible, en tout cas dans les formes qu'on leur connaît jusqu'à maintenant. Alors voilà, avec tout ça cumulé, tous les trucs dont je viens de vous parler, toutes ces infos, la pratique de la répression toujours plus violente, la capacité de nos dirigeants à nier ce qui est sous leurs yeux en termes de violence policière comme dans beaucoup, beaucoup d'autres domaines, avec ces lois qui étendent toujours plus les pouvoirs de la police, qui limitent toujours plus le droit de manifester son désaccord avec les politiques mises en place, qui prévoit des peines complètement monstrueuses, non mais 3 ans de tôle si tu bloques ta fac. Je dirais que ça sent pas bon.
Radio Canu. Canu Info. Du mercredi.
Jean Castex est venu samedi dernier à Saint-Étienne visiter les soignants et les soignantes. Petit reportage fourni par nos amis de Saint-Étienne.
C'est dommage qu'on n'embauche pas des soignants. Qu'on ait plus.
Novembre 2020, le Premier ministre Jean Castex vient visiter l'hôpital Nord de Saint-Étienne. Il y a beaucoup de monde dans le hall, surtout des infirmières et quelques drapeaux de syndicats.
Aujourd'hui, c'est qu'il y a le Premier ministre qui est venu à l'hôpital de Saint-Étienne pour voir un peu ce qui s'y passait, puisqu'on est la région pour l'instant la plus touchée de France, avec un taux d'incidence très très élevé au niveau du Covid, qu'on est presque plein sur nos lits de réanimation Covid. On a très très peu de latence en fait au niveau des lits. On a dû muter plusieurs fois des gens sur d'autres régions pour essayer de faire face en fait à cette deuxième vague qui arrive énormément vite et grosse. Et donc en fait nous on est là, on travaille en réanimation et on voulait se faire entendre et se faire voir au Premier ministre pour lui montrer que on n'est pas content, on est fatigué, on ne supporte plus de travailler dans ces conditions-là, c'est-à-dire avec un manque de moyens énormes, de moyens humains. Déjà on manque de personnel. On nous demande de revenir en heures supplémentaires, parfois pas en heures supplémentaires. Enfin, il faut toujours revenir parce qu'il y a des arrêts de travail, parce que les gens sont épuisés. On a un manque de moyens aussi techniques. Il manque de matériel, en fait, énormément de matériel. Pour faire face à cette deuxième vague, on a beaucoup plus de patients. On fait face à beaucoup plus de patients graves et on manque de matériel. Et donc, on voulait un petit peu juste se faire entendre sans violence, avec nos petites pancartes et nos petites blouses et nos petits masques et dire au Premier ministre, venez dans nos services, venez travailler avec nous et vous verrez en fait ce que c'est là, vraiment que d'être soignant et que d'être soignant pendant le Covid, encore pire.
Personnel épuisé, les patients sont en danger. Personnel épuisé, les patients sont en danger. Personnel épuisé, les patients sont en danger. Personnel épuisé, les patients sont en danger.
Il y a BFM qui voudrait faire une interview après.
Vous vous appelez comment?
Je m'appelle.
Ah, vous, c'est votre nom de famille? D'accord. Vous êtes?
Je suis infirmière en réanimation B à l'hôpital Nord de Saint-Étienne.
Vous confirmez que le service de réanimation aujourd'hui ici, il est saturé?
Il est saturé. Tous nos services de réanimation, il y a plusieurs réanimations, on est tous saturés.
La réanimation Covid notamment?
Surtout la réanimation Covid.
Qu'est-ce qui se passe ici en ce moment, ces jours-ci? Pourquoi vous râlez, vous, aujourd'hui?
Bah, pour les mêmes choses que depuis pas mal de temps maintenant. On manque de moyens humains. Les personnels sont épuisés. On nous demande de revenir en heures supplémentaires. Parfois, des fois, on ne nous laisse pas bien le choix. Manque de moyens aussi matériels. On manque cruellement de matériel, et notamment en réanimation, des respirateurs, des choses toutes bêtes qu'on a besoin de tous les jours. Et puis, on en a marre. On est sous-payés, on est malmenés. Les patients, on fait des prises en charge absolument vraiment horribles. Enfin, on n'a plus le temps de faire les choses comme on aime le faire. Et, nous, notre boulot, c'est pas ça, quoi. On n'est pas devenu ni aide-soignant, ni infirmier, ni médecin, ni tout ce que vous voulez pour faire ce travail-là de cette façon-là.
Le dépassement de la situation, il s'explique par les cas de Covid?
Ça fait un moment que c'était déjà très compliqué et on avait beau en parler, on ne nous écoutait pas bien, pas du tout même. Et en fait, c'est vrai que le Covid a mis en lumière tout ça, mais la première vague déjà, on a tenu bon, on était là, des gens sont revenus, on a fait revenir des étudiants. Et la deuxième vague, personne n'a rien préparé, enfin personne, je veux dire le gouvernement, hein, ils n'ont rien préparé. Et derrière, les gens ne veulent plus revenir parce que ceux qui sont revenus, on les a mal payés, on les a pris pour des cons, et notamment sur les primes. Et puis, on n'a rien préparé, quoi. On n'est pas, il n'y a pas d'autres personnes de formées, on n'a pas plus de matériel. Enfin, il n'y a pas de différence, sauf qu'on est encore plus fatigué. Et oui, le Covid a mis tout ça en lumière et on aimerait bien être entendu, enfin.
Est-ce que vous avez réussi à rencontrer le Premier ministre?
Ben, bien sûr que non.
Quelqu'un représentant de votre délégation, personne, là?
La CGT, le...
Ah bah, vous nous direz après.
Plusieurs...
Il y a pu avoir un échange.
Apparemment assez court, mais oui. Bon. Alors on prend ce qu'on nous donne aussi, hein.
Le Ségur de la Santé, je vois un panneau derrière qui en parle. Vous y croyez pas du tout? C'est un effort financier assez considérable pour l'hôpital?
C'est un effort financier, on peut pas l'enlever. Mais c'est pas suffisant, ça manque, ça fait des années qu'on manque.
C'est dur, imposture.
L'article de BFM TV ne reprendra pas un mot des infirmières.
Et la police nous a bloqués, nous a empêchés en fait d'aller plus loin quand on est venu devant les urgences pour se faire voir par la télé. On nous a empêchés après de repartir, on voulait aller sur la direction pour voir le Premier ministre. En fait, on ne veut pas le voir lui, on veut que lui nous voit. Et on nous en a empêchés. Okay. Et là on est bloqués et là on a le droit de partir, mais par petit groupe de 10, on nous a quand même accueillis avec, je dirais, une... bonne vingtaine de policiers, certains avec carrément le bouclier, enfin voilà, policiers, gendarmes. Je pense pas qu'on soit ni dangereux, ni violent.
Parce que là, on est devant les urgences, là, et les flics, ils ne peuvent pas nous faire revenir au boulot. Donc on ne peut pas nous donner la boue, ça ne peut rien faire. Je ne sais rien, je vais demander. Par l'entrée principale, on peut rentrer. Par l'entrée principale, on peut rentrer. Non, c'est un truc de malade, Philippe. Bon, on est une trentaine. Parce que nous, on n'a pas de responsable, nous aussi. Hein. Impossible, il a dit non. Donc, ce qui est. Alors, c'est simple. Philippe, tout ce qui est repas, tout ça, on ne peut pas les livrer.
Dis-le, t'as les cours, je suis avec Cérane.
Et là, je suis avec Cérane, là.
Les infirmières sont toutes en blanc. Elles portent des pancartes et rient beaucoup. Elles soignent les gens.
Je sais pas le numéro du directeur de garde. Parce que moi, regarde, là, il est déjà 4h25. Je suis sur le bloc ici. Moi, c'est simple, les repas, je les livre pas. Après, les patients, ils n'auront pas de repas, rien du tout. Moi, 6h, je me casse, entre guillemets. Maintenant, moi, j'ai pas le numéro du directeur de garde. Voilà, après, ça sera plus ma responsabilité. Après. Moi, je suis avec Sarah, moi, c'est ça. Là, on est devant la porte des urgences. Et là, il y a tous les syndicats, on est une trentaine, quarantaine en tout. Ils ne veulent pas nous faire revenir dans notre service. Et les repas, on ne peut pas les livrer. Parce qu'on n'a pas de responsable dans notre service. Ah, j'en sais rien. Bah, c'est les flics qui m'ont dit, ouais, il faut avoir un responsable du service, on n'en a pas, mais le week-end, tu
sais. Les gendarmes sont tout en noir. Ils ont des grenades et des pistolets. Ils sont silencieux. Ils maintiennent l'ordre grâce à la violence.
En fait, moi, je veux travailler. Je dois occuper mon poste.
Ça convient, monsieur. J'attends que quelqu'un de la RSU, SHU vienne. On va essayer de les contacter pour qu'ils viennent vous chercher par groupe pour vous raccompagner sur le travail. Je vous rappelle, c'est une manifestation qui n'est pas déclarée illégale. Voilà, donc là, je suis en train de contacter quelqu'un. Ils vont venir. Ils vont vous ramener sur votre lieu de travail. Il n'y a pas de difficulté.
Tout le monde n'a pas de responsable.
Je comprends, mais j'essaie d'en trouver.
Les gendarmes empêchent les infirmières d'aller soigner les gens.
En fait, le problème des soignants, c'est que nous, on ne fait jamais vraiment grève. Parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle le service minimum, comme on est dans le secteur public. Et en fait, on est déjà en service minimum dans les services. Hein. Clairement, faut pas croire, on n'est pas une de plus ou un de plus. Ça arrive très, très rarement. Et de toute façon, si ça arrive, la personne se met en vacances parce qu'elle en a besoin. Et du coup, bah, en fait, on fait jamais vraiment grève parce qu'on est en service minimum et on a notre morale qui fait qu'on peut pas, on peut pas laisser ni nos patients ni nos collègues. Mmh. Et on n'y arrive pas parce qu'on peut pas le faire. Quoi. C'est impossible pour nous, niveau moral. Quoi.
Les gendarmes escortent les infirmières jusqu'au vestiaire.
Qu'est-ce qu'il vous a dit, Premier ministre ?
Il n'était pas le Premier ministre.
C'était que ses conseillers ?
Bah ouais.
C'était même pas lui ?
Non.
Vous avez même pas vu ?
Non. J'y crois pas.
J'ai perdu mon badge.
Jean Castex tweet. La deuxième vague est arrivée brutalement et violemment. Exemplaires de courage et de dévouement, nos soignants sont à nouveau sur le pont. Respectons-les.
Baise-moi encore, rebaise-moi et baise. Donne-moi un de tes plus savoureux. Donne-moi un de tes plus amoureux. Je t'en rendrai quatre plus chauds que braise. Là, te plains-tu, ça que ce mal j'apaise. T'en donnant 10 autres douceurs, ainsi mêlant nos baisers tant heureux, jouissons-nous l'un de l'autre à notre aise. L'or, double vie, à chacun en suivra, chacun en soi et son ami vivra. Permets, m'amour, penser quelques folies. Toujours suis mal, vivant discrètement. Et ne me puis donner contentement. Si hors de moi ne fait quelque saillie, baise-moi encore, rebaise-moi et baise. Donne-moi un de tes plus savoureux. Donne-moi un de tes plus amoureux. Je t'en rendrai quatre plus chaud que braise.
Canu Info du mercredi.
Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Avenir Lycéen ? Alors, peut-être que c'est pas le cas, et ça serait pas très étonnant, parce que, ma foi, c'est un syndicat lycéen constitué, semble-t-il, d'une trentaine de membres actifs, autant dire, qui défraye pas tellement la chronique. Et puis, au moment des mobilisations, donc quand un syndicat pourrait a priori servir à quelque chose, il fait pas trop parler de lui non plus, vu que la plupart de ses membres font aussi partie du mouvement Les Jeunes avec Macron, et donc, globalement, c'est pas trop le genre à descendre dans la rue avec un mégaphone. Mais là, depuis hier, à l'occasion d'un article dans Mediapart, on a appris le nom de ce syndicat. Alors pas pour ses actions, bien sûr, mais plutôt pour des histoires de subventions. Puisque en novembre 2019, il y a un an donc, le ministère de l'Éducation leur donne 3 sous, ma foi, pour les encourager un peu. C'est des petits jeunes, ils font vivre de la démocratie, c'est très bien. Quand je dis 3 sous, c'est plus précisément 65 000 euros. Hein. Alors, d'après le dossier de financement, sur ces 65 000, il y en a 40 000 qui auraient dû servir à organiser le congrès fondateur, puisque c'est un jeune syndicat qui vient de se lancer, mais qui donc, à ce moment-là, et jusqu'à maintenant, n'a toujours pas eu son congrès fondateur. Alors, déjà, bon, disons que c'est quand même une sacrée somme, même en admettant qu'un syndicat fasse financer son congrès fondateur par le gouvernement. Ça reste un peu chéro malgré tout pour payer une salle, quelques stylos et des chips pour 30 personnes. On parle bien de 40 000 balles qui sont destinées à ce congrès. Mais bon, de toute façon, le congrès n'a jamais eu lieu. Bon, j'imagine le Covid, tout ça. En tout cas, voilà, ils n'ont pas réussi à l'organiser pendant cette année. Alors du coup, ma foi, ça faisait plein d'argent qui traînait là, qui n'était pas dépensé. Il a bien fallu que nos jeunes syndicalistes prennent le problème à bras le corps. Et Mediapart s'est un peu enquis de la manière dont cet argent avait été dépensé. Alors visiblement, il y a un compte, il y a une carte bleue qui visiblement circule assez facilement de membre à membre et qui sert à payer, ma foi, souvent, beaucoup, énormément, des frais de restaurant. Des frais de restaurant, des frais de bar, aussi du retrait en liquide. Ça peut assez facilement arriver la nuit dans les quartiers un peu à bistrot de la capitale de Paris. Et alors bon, on peut se dire qu'une partie du travail syndical se fasse au bistrot. Ma foi, ça pourrait sembler classique. Mais là, c'est généralement quand même plus au resto qu'au bistrot. Et c'est plutôt des restos 4 ou 5 étoiles. Et surtout, c'est quand même vraiment payé avec l'argent public, même pas avec l'argent des cotisations, mais avec l'argent public. Quand ces jeunes ont bien écumé les restos parisiens, ma foi, ils prennent éventuellement le train pour venir à Lyon, tiens, où une de leurs potes, ancienne du syndicat, a déménagé. Alors ça, par exemple, c'était au mois de juillet dernier, un repas donc avec cette ancienne du syndicat, devenue lyonnaise entre-temps, 2 parigots qui sont descendus, 3 personnes... bon, un repas et puis en fait un week-end de travail, hein, tout un week-end de travail. Alors, voyons voir ce que ça coûte. Eh bien, ma foi, nous avons d'abord 236 euros au restaurant gastronomique de Christian Tête-d'Oie. Puis, 150 euros à l'hôtel intercontinental de Lyon, donc un hôtel 5 étoiles où logent visiblement nos 2 parisiens. Le lendemain, dans le même hôtel, alors on sait pas, on n'a pas le détail de à quoi a servi cette somme, mais c'est 426 euros. Et pour bien finir le week-end, parce qu'il n'y a pas de raison de se laisser aller, 128 euros à la brasserie Georges. Donc on est à 236 plus 150 plus 426 plus 128, 940 euros donc pour ce week-end de travail à 3 personnes. Alors j'ai pris un exemple un peu au hasard dans le très très long article de Mediapart qui est rempli d'histoires de ce genre. Sans parler, parce qu'il y en a aussi pas mal, du matos informatique plutôt de pointe, dont les membres du syndicat peinent assez visiblement à expliquer l'utilité syndicale quand Mediapart leur demande. Oui, puisque Mediapart a joint pas mal de membres de cette organisation. Alors, entre autres, des présidents, des ex-présidents, présidentes, des trésoriers, ex-trésorières. Alors, disons que le tableau qui se dessine, c'est que les présidents et présidentes sont jamais au courant de rien du tout. Jamais eu vent du fait que du fric était dépensé, alors que les statuts du syndicat prévoient qu'ils doivent valider chaque dépense Bon, en fait, à chaque fois qu'on leur dit tel truc, ils disent « Ah non, ça, non, jamais trop entendu parler ». Alors, les trésoriers, si, eux, ils en ont entendu parler un peu, mais pas vraiment, enfin, ils savent plus, enfin, bon, rien, tout est un petit peu flou, quand même, comme ça. Pendant ce temps, figurez-vous que pendant ce temps, d'autres syndicats moins macronistes ont essayé, eux aussi, à des moments, d'avoir des subventions. Par exemple, le Mouvement National Lycéen, qui, lui, donc, n'est pas macroniste et est plutôt, bêtement, de gauche. Alors, en 2018, ils ont quand même eu droit à 10 000 balles. Dans le cadre d'une convention d'objectifs. En 2020, par contre, que dalle, hein, le montant global alloué aux subventions ne permet pas d'apporter une aide à tous les projets qui nous sont soumis, quelle que soit par ailleurs leur qualité, se justifie le ministère, pour dire qu'ils n'ont pas un rond pour le Mouvement National Lycéen. On se rappelle donc que l'année dernière, c'est bien 65 000 euros qu'ils ont filé à Avenir Lycéen. Et alors, quand Mediapart demande au ministère cette subvention à Avenir Lycéen, à propos de ces restos, de ces smartphones, de ces machins, tout ça, qui ont été payés en masse à ses membres, le ministère explique à ce moment-là que, bon, bah eux, ils ont pas que ça à foutre d'opérer un contrôle détaillé des dépenses des associations. Le ministère ne fait rien d'autre que s'assurer que, d'une manière globale, les actions subventionnées sont effectivement réalisées. Et le ministère précise qu'ils l'ont fait dans le cas d'Avenir Lycéen, même si, sur les 65 000 euros, donc on disait 40 000 étaient destinés à organiser ce congrès qui, lui, n'a jamais été organisé. Alors, quand même, le ministère avait déjà reçu des alertes sur la nature des dépenses, le plan resto et smartphone. Et le ministère explique à Mediapart que l'association, suite à ces alertes, a quand même été sensibilisée au bon usage d'une subvention publique. On ne fait pas n'importe quoi avec une subvention publique, enfin. Ils l'auront dit comme ça. Bon, maintenant qu'ils les ont sensibilisés, qu'ils leur ont dit « Ouh, quand même, attention, on ne peut pas faire n'importe quoi avec ce pognon », c'est fait. Le ministère, qui n'a donc plus un sou pour le syndicat de gauche, peut, en revanche, filer malgré tout encore pour cette année, c'est-à-dire que là, ça va arriver sur le compte d'un instant à l'autre, 30 000 balles à Avenir Lycéen, qui, ma foi, s'il ne parvient pas à organiser ce fameux congrès, Avenir Lycéen, lui, au moins, il ne pousse pas les jeunes à descendre dans la rue.
Écoutez, à tout moment, ils peuvent venir te prendre pour le moment qui est à leur disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expulser.
J'arrive pas à comprendre qu'on soit vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre. C'est que les lois mises en place. C'est que les lois mises en place.
Témoignage, blabla, info, contre la machine à expulser.
Jeudi 5 novembre, Ylva Johansson, commissaire européenne aux affaires intérieures, et Emmanuel Macron discouraient sur un même thème, mais à deux endroits distincts. Alors que la première plaidait devant le Sénat français pour une augmentation des expulsions pour faire face à la montée des populismes en Europe, le second déclarait au Pertus, à la frontière franco-espagnole, vouloir réformer ou renforcer ou refonder Schengen, en réaction à l'attaque dans une église à Nice coûtant la vie à trois personnes. Quand l'une rendra l'immigration responsable de la montée du populisme, l'autre la rendra coupable de terrorisme. Dans son allocution devant le Sénat français, Ylva Johansson demande aux pays européens de mettre tout en œuvre pour augmenter les reconduites à la frontière pour faire face à la montée du populisme. Et oui, la solution au problème est simple. Pour éviter d'avoir des Marine Le Pen partout en Europe, il suffit d'appliquer leur programme sans même attendre qu'il ou elle soit élu. Elle détaille les outils disponibles pour pouvoir mener à bien cette politique. Le principal étant la multiplication d'accords pour que le pays d'origine reprenne leurs ressortissants qui ne vivent pas en situation régulière dans l'espace Schengen. En clair, faire pression sur les pays récalcitrants à accorder un laissez-passer à un ressortissant présenté comme en situation irrégulière et dépourvu de passeport. Car c'est dans cette situation que les pays d'origine, réels ou supposés, du dit ressortissant, doivent fournir ce laissez-passer pour que l'expulsion ait lieu. sauf que certains pays, pour diverses raisons, que ce soit politiques, diplomatiques ou économiques, rechignent, voire refusent de délivrer ces laissez-passer. Il s'agit donc de faire pression sur ces pays, et pour cela la Commission européenne est prête à utiliser tous les outils en sa possession. Et là, je cite, « y compris ceux liés à l'aide internationale, les accords de marché, les visas ou encore Erasmus ». En gros, vous l'aurez compris, soit vous signez ces putains de laissez-passer, soit on vous sucre les résidus d'aide qu'on vous accorde et les quelques visas qu'on veut bien vous lâcher. Les politiques migratoires sont une fois de plus ciblées par des politiques éloignées des réalités qu'elles connaissent pourtant bien, mais qui préfèrent ne pas en tenir compte pour des calculs électoraux. Un peu à la manière du fameux sentiment d'insécurité, l'immigration est un levier facile à actionner et peu coûteux pour les États, d'autant plus qu'on peut lui faire dire tout et son contraire. C'est bien plus facile de conforter des idées montantes qui mettent à la tête de plus en plus d'États des politiques populistes et autoritaires, voire néo-fascistes, en disant « Ayez confiance en l'Europe, regardez, on va expulser massivement. Le problème en Europe, c'est l'immigration. » Que de dire « Il y a quelque chose qui ne marche pas. On ne peut pas laisser de grands groupes financiers mettre sur la touche des salariés. Que l'air qu'ils respirent et l'eau qu'ils boivent est bourrée de saloperies et qu'on va s'attaquer au problème pour de vrai, même si les producteurs de betteraves et de bagnoles font la gueule. » Qu'on arrête cette logique qui veut que les individus passent au second plan des échanges économiques. Mais non, à la place de ça, l'UE s'arme juridiquement. Depuis début 2020, l'Europe s'est dotée de lois lui permettant d'assouplir les conditions d'attribution de visas conditionnées à la coopération des États avec les accords de réadmission. Ylva Johansson expose son problème. Pour elle, la population européenne est prête à accorder une protection aux personnes qui en ont vraiment besoin, à condition de trier le bon grain de livret. Comme si la personne qui migre pour des raisons politiques est opposée et opposable à celle qui quitte son pays pour des raisons économiques, sociales ou environnementales. Comme si ces parcours ne pouvaient pas se mêler. Pour retrouver la confiance des citoyens et citoyennes européennes, il suffirait donc, si on l'écoute, d'expulser rapidement les personnes déboutées de leurs demandes avant qu'elles ne reprennent racine dans un pays. Et elle le dit très clairement quand elle fustige, je vais la citer, les très longues procédures avant qu'une telle décision ne soit prise. Car pour elle, entre-temps, les gens s'intègrent dans la société, tombent amoureux, commencent à travailler, et il devient très difficile de procéder à ces retours, et c'est ce que je veux éviter. Là est donc le problème. Les gens commencent à vivre malgré les OQTF, vivent difficilement en galérant, mais à vivre et même à s'intégrer, selon ses propres mots. Et là, cauchemar pour les États, car si intégration il y a, de leur point de vue, il ne reste plus que des arguments xénophobes pour justifier une expulsion. Alors mieux vaut agir tôt au risque de se faire démasquer. Ça, c'était pour le côté pile. Côté face, cette fois, on a Emmanuel Macron, qui dans un grand discours sur les frontières et l'importance de les contrôler, nous fait de grandes et belles phrases pour rassurer une partie de l'électorat. Quoi de mieux pour ça que de fustiger Schengen, ce minuscule acquis qui fait qu'on peut circuler dans l'Union européenne avec une simple carte d'identité. Enfin, simple, c'est quand même une sacrée condition parce qu'un paquet de gens n'en ont pas. Et au prix assez lourd, déjà, de méga contrôle aux frontières extérieures. Dans son discours, Macron voudrait garder cette libre circulation. Parce que même en tant que libéral, il adore ça. Mais avec des possibilités de contrôle temporaire et un renforcement des contrôles aux frontières extérieures. Pour cela, il annonce que le nombre d'agents, police, gendarmes, militaires, chargés de surveiller les frontières en France passeront de 2400 à 4800. Pour ce qui est des contrôles rétablis à nos frontières françaises, ce qui s'apparente donc à un renforcement, les mauvaises langues parleront donc d'abandon de Schengen, ils sont déjà en œuvre à cause du premier assouplissement, ou abandon, hein, c'est à vous de voir, de Schengen en 2011 suite à un accord entre Sarkozy et Berlusconi, il n'y a qu'à voir la gueule du duo, qui permet aux États membres de rétablir des contrôles aux frontières intérieures en raison de la pression migratoire et de manière strictement limitée. Alors strictement limitée, vous allez voir, depuis novembre 2015, les gouvernements français ont systématiquement prolongé ces contrôles. Dernier en date, octobre 2020 jusqu'au 30 avril 2021, et je vous fais le pari qu'avant la fin avril, un nouveau prolongement aura lieu. Pour Yves Pascuo, directeur de programme Europe, de l'association Respublica et spécialiste des politiques migratoires interrogées par Le Monde, le message qui est martelé par Macron est clair. Je le cite, « Le message qui est envoyé, c'est que Schengen ne fonctionne pas et que tant qu'il n'a pas été réformé, c'est la frontière intérieure qui va nous protéger. » Macron ne fait qu'avancer des pions pour le futur nouveau pacte de l'immigration de l'asile sur lequel se penche l'Union européenne, avec notamment une refonte des accords de Dublin. Il annonce des processus déjà en cours, comme des grandes réformes. Quand il parle d'une véritable police de sécurité aux frontières extérieures de l'espace, il n'invente rien, puisque les agents Frontex devait déjà passer, avant même cette annonce, de 2000 à 10 000 en 2027. Le Monde rappelle que le nombre de franchissements illégaux de frontières n'ont fait que de chuter ces dernières années. Frontex a détecté 72 500 franchissements illégaux de frontières extérieures, 21% de moins que sur la même période en 2019, chiffre qui avait déjà baissé de 27% en 2018 et de 60% en 2017. Ces diminutions ne sont pas dues à des renforcements de contrôle, mais à des situations géopolitiques de pays voisins différentes et fluctuantes d'une année à l'autre. Et c'est sans oublier qu'à chaque fois qu'on renforce une frontière, on ne diminue pas les passages ou tentatives de passage, on augmente simplement le risque que les gens prennent pour la franchir. On vous en avait parlé en mai dernier, une enquête du New York Times s'appuyant sur plusieurs témoignages démontrait que Malte organisait, avec des bateaux de navires privés, l'interception et l'expulsion de migrants secourus en Méditerranée. Dans son enquête, le journal faisait état notamment de la soirée du 12 avril, où deux chalutiers, le Dar as-Salam 1 et le Tremar, sont envoyés pour intercepter une embarcation qui émettait des appels de détresse depuis deux jours et remettre les passagers aux gardes-côtes libyens. 56 personnes se trouvaient à bord, mais 5 ont trouvé la mort avant l'arrivée des chalutiers. Il y a donc eu 51 survivants et survivantes. En guise de remerciement aux autorités libyennes, un troisième chalutier, le Salve Regina, a quant à lui navigué vers Tripoli le 15 avril, transportant plusieurs tonnes de nourriture et d'eau. Un haut responsable maltais, Neville Gaffa, a déclaré de son côté au journal qu'il avait également été enrôlé par le gouvernement le soir du 12 avril pour utiliser ses relations en Libye et assurer le passage en toute sécurité des deux premiers chalutiers vers le port libyen. Aujourd'hui, ce sont donc 50 personnes qui se trouvaient à bord de ce navire et qui ont décidé d'attaquer juridiquement le gouvernement maltais comme étant responsable des traitements inhumains et dégradants qu'ils ont subis à leur retour dans les centres de détention libyens, ainsi que le refus de droit à la vie dont s'est rendu coupable Malte en leur refusant de déposer et d'étudier leur demande d'asile. Si on imagine assez mal que cette procédure envoie des responsables maltais derrière les barreaux comme il se devrait, on espère au moins que des perquisitions auront lieu et qu'ils auront à rendre compte de leurs actions devant celles et ceux qu'ils ont renvoyés dans l'enfer libyen.
Depuis maintenant une semaine, les personnes retenues au centre de rétention administratif de Lyon mènent une grève de la faim pour exiger leur libération immédiate, et alors que les cas de Covid augmentent, sans que rien ne soit fait pour protéger la santé des personnes retenues. Il y a actuellement 127 personnes incarcérées au CRA, 13 ou 14 ont été testées positives au Covid-19, peut-être davantage, mais impossible pour eux de le savoir, faute de tests suffisants. Plusieurs autres sont malades mais se voient refuser tout rendez-vous avec le médecin depuis plusieurs jours. Ils sont 4 à 5 par chambre, avec un masque jetable par personne et par semaine. Autant dire qu'aucune mesure sanitaire n'est prise pour protéger et soigner les personnes, sauf l'isolement des personnes testées positives. Les réponses qu'on leur donne est que pour le moment rien ne peut être fait, que ce sera réfléchi quand il y aura plus de cas. Tout cela alors qu'insultes, mépris et violences policières continuent de fuser. Pour plus d'infos, on vous invite à lire les témoignages publiés sur crametoncralion.noblog.org. La ville de Calais va accorder une subvention de 4000 euros au titre de l'aide alimentaire aux associations qui aident les plus démunis. Bonne nouvelle parce qu'entre les expulsions à répétition et les interdictions de distribution de nourriture, les migrants de Calais et les assos qui les soutiennent sont bien en peine. Par contre, les migrants ne semblent justement pas tout à fait inclus dans ce que les municipalités appellent les plus démunis. Seront aidés l'association Entraide du Calaisis, les Restos du Cœur, le Secours Populaire et la Croix-Rouge. Excepté la Croix-Rouge qui agit auprès des migrants en faisant des maraudes sanitaires et du rapprochement familial, aucune asso d'aide aux migrants ne bénéficiera de cette aide. L'auberge des migrants, qui recevait une subvention annuelle de 5000 euros, jusqu'à ce qu'elle lui soit supprimée en 2014, renvoie avec mépris ce bel exemple d'aide financière politiquement dirigée, qui ne représente de toute façon que des miettes face aux sommes englouties dans les murs et les grillages, ou encore dans les expulsions. À propos d'expulsions calaisiennes, le 29 septembre dernier, près de 800 personnes se sont faites expulser d'un bidonville surnommé Hospital Jungle. Une expulsion des personnes et enlèvement de leurs quelques biens, déguisés en mise à l'abri, mais qui ne respectaient pas la procédure. 8 associations d'aide aux migrants, l'Auberge des migrants, la Cabane juridique, la Fondation Abbé Pierre, Help Refugees, Project Place, Salam, le Secours catholique et Utopia 56, et 11 personnes exilées la contestent et ont assigné en justice la préfecture de Calais pour voie de fait. L'expulsion a été décrétée sans l'autorisation d'un juge, alors qu'elle est normalement requise. Est requis également un diagnostic social et l'identification en amont du nombre de personnes présentes, leur âge, le genre et la nationalité. Elle nécessite aussi une préparation et une discussion avec les personnes expulsées afin de trouver des solutions de relogement. Rien de tout cela n'a été mis en place et cette évacuation s'est basée sur la flagrance, une base légale qui permet la collecte de preuves dans le cadre d'une enquête mais n'autorise en rien une expulsion de personnes jugées indésirables. Par ailleurs, les associations signataires dénoncent le non-respect des principes de mise à l'abri qui ne peut être mené sous la contrainte. Or, ce sont bel et bien des gendarmes, CRS, policiers aux frontières qui ont bouclé un périmètre autour du camp et forcé les personnes s'y trouvant à monter dans le bus en direction de centres d'hébergement aux destinations inconnues et loin de Calais. Et rappelez également dans le communiqué que cette expulsion, comme celle qui continue de lui succéder, viennent durablement dégrader les conditions de survie des personnes exilées à Calais qui se retrouvent ballottées de part et d'autre et d'autant plus précarisées. Le but de cette assignation en justice est de faire jurisprudence pour mettre un terme à cette utilisation abusive par l'État de la base légale qu'est la flagrance. L'audience est fixée au 18 novembre prochain au tribunal de Boulogne-sur-Mer. Vous pourrez en lire plus dans un article de Street Press et sur le site d'Utopia 56 où figure le texte commun des 8 associations.
Radio Canu.
S'appelle Canu Info, s'appelle Canu Info, s'appelle Canu Info du mercredi. S'appelle Canu Info, s'appelle Canu Info, s'appelle Canu Info du mercredi.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2 et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org.
La plus rebelle des radios.